au quotidien avec Hélène Denis.
Ben oui, on est là, 23 juin 2025. 23 juin, non, c'est pas le 23 décembre avec la chanson de Beaudommage.
On pourrait la faire jouer.
23 décembre, oui, pour nous rafraîchir, hein, pour nous donner l'impression qu'il fait frais parce que il fait chaud et il va faire chaud au moins jusqu'à mercredi, mais les deux journées les plus chaudes, là, c'est aujourd'hui. En tout cas, dans la région de Montréal, on prévoit un maximum de 35 avec un humidex de 46, mais il va faire chaud, ultra chaud dans le sud du Québec au grand complet et aussi en Ontario. À Montréal, en ce moment, il fait 26. Une chance que vous avez aidé au déménagement samedi. C'était moins chaud, ouais. Mais il fait chaud quand même quand on force après des meubles.
46.
Paraît-il que, je ne sais pas si on va battre des records, mais il avait fait 46 il y a 50 ans, en 1975. Oui, oui. Je ne me souviens plus exactement de la date, là, mais c'était autour du mois de juin, j'imagine bien. Alors, Mathieu, ça va?
Ça va bien, elle-même.
Oui, oui, elle-même va bien. Je n'ai pas aidé à déménager en fin de semaine. J'ai plutôt relaxé.
Il faut en profiter.
Oui, oui, il faut en profiter. Ça sent de plus en plus les congés, les vacances. On ne sera pas là demain, mais il va y avoir de la belle musique tout au long de la journée à l'antenne de Canal M pour accompagner votre fête nationale. Elle est au bout du fil. Elle est debout depuis très tôt ce matin. Daniel, vous avez profité de ce doux matin pour arroser vos fleurs en paix.
Oui, en paix, c'était doux, c'était bien, mais c'était pas si frais que ça, mais même. Puis là, on vous parlait de déménagement avec Mathieu, et puis il y en a certaines personnes qui doivent déménager de ce temps-ci. Bien là, entre autres, quand on vient déménager, on a les fameux livres que l'on déménage, puis là, on se demande, est-ce que je vais en donner, est-ce que je les apporte? C'est toujours, c'est troublant de déménager et de délaisser des livres. Alors, c'est un texte de Rosemée Autonne-Témorin qui a paru dans la presse du 11 juin dernier. Déménagement des boîtes de livres et autant de fantômes, c'est ce qu'elle nous propose. Oh. Et en deuxième partie, je vous amène en quelque part. J'ai eu la chance d'y aller à cet endroit-là, vous faire découvrir un très bon livre. Vous mangerez plus après. Là. Je veux dire, vous êtes tellement occupé, même plus répondre au téléphone.
Vrai?
Entendre les notifications. Moi, j'ai bien aimé, mais peut-être que j'ai un petit parti pris parce que je suis allée à cet endroit-là.
Alors, coup de cœur littéraire que vous allez partager avec nous dans la deuxième portion de cette émission, là, autour de 10h quelques. Merci d'être là. Et puis, qu'est-ce qu'on aura au menu? J'ai bien hâte de le rencontrer. Il viendra en studio. Il s'appelle Terry Samuel Bond. C'est un ancien pêcheur originaire de la Gaspésie qui se prépare à traverser le Canada à la course inspirée par Terry Fox. Comme Terry Fox, Terry Samuel Bond a été amputé d'une jambe il n'y a pas si longtemps à cause d'un accident de travail. Alors, il sera avec nous vers 10h30 autour d'eux. On aura plusieurs chansons québécoises en cette fin de semaine, ce début de semaine à saveur de fête nationale. Et on y va avec une première chanson québécoise. C'est Vanille qui nous offre « Ce n'est pas ici, ce n'est pas ailleurs ».
Thank you.
Ce n'est pas ici, ce n'est pas ailleurs. Une chanson de Vanille.
Merci. Attachez votre maillot, c'est le titre, le grand titre de la presse plus d'aujourd'hui. On parle évidemment de chaleur et aussi d'école ouverte ou fermée. Envoyer son enfant à l'école ou pas? Le dilemme s'est révélé une vraie patate chaude dimanche à la veille de la dernière journée scolaire de nombreux élèves. Québec a offert aux écoles la possibilité de fermer leurs portes, une proposition floue décriée par les syndicats. Lundi marque la dernière journée du calendrier scolaire dans plusieurs centres de services scolaires CSS, dont ceux de Montréal, Laval, Marguerite-Bourgeois et de la capitale. Marie-Ève Cloutier a décidé que sa fille de 11 ans, qui fréquente une école de Rosemont, restera à la maison. « C'est ma responsabilité de parent de penser à la sécurité de ma fille », justifie-t-elle. « Son école n'est pas climatisée. Il fait déjà très chaud quand le mercure monte dans les 30 degrés. Je n'imagine pas quand la température montera. » De son côté, Victor Naranjo pense que se rendre à l'école avec cette chaleur accablante n'est pas bon pour son fils de 12 ans, Roméo. « Il n'y a pas d'air climatisé. Il va faire comment? » Mais d'un autre côté, le garçon qui termine sa sixième année va être déçu s'il manque son dernier jour de classe. « Ils auraient dû faire leur dernier jour vendredi. » et commencer les camps de jour après la Saint-Jean, soutient le père. Marie-Ève Gagné permettra quant à elle à ses trois enfants de participer à cette dernière journée de classe. Ils ont quitté l'école vendredi en ne sachant pas que c'était leur dernière journée. Ils veulent aller dire bonjour à leurs professeurs ainsi qu'à leurs amis, en tout cas ceux qui seront là. Ils savent aussi très bien que c'est une journée de plaisir qui est organisée, non pas une journée d'apprentissage. Environnement Canada a diffusé dimanche un avertissement de chaleur pour une partie du sud du Québec, où lundi et mardi, les températures maximales dépasseront les 30 degrés le jour et se maintiendront au-dessus de 20 degrés la nuit. L'indice Humidex, qui est une estimation de la température ressentie, tenant compte de la chaleur et de l'humidité de l'air, pourrait varier entre 40 et 45, et on parle de 46 ce matin. Beaucoup d'élèves risquent donc de manquer à l'appel lundi, constate une enseignante de quatrième année du Centre de services scolaires de Laval, consultée par la presse, et qui a exigé l'anonymat par peur de représailles. Elle s'attend à ce que seulement la moitié de ses 18 élèves se présentent. La journée s'annonce difficile dans sa salle de classe qui ne dispose pas de rideaux. Les fenêtres ne s'ouvrent que partiellement. La salle ne compte qu'un ventilateur. Lors des années précédentes, l'enseignante apportait ses ventilateurs personnels en classe, mais elle a cessé de le faire puisqu'elle doit vivre elle-même avec la chaleur à la maison. Sa salle de classe serait si chaude qu'elle aurait hérité d'un surnom dans l'école, le four. Ma classe donne sur la cour d'école. Le soleil plombe à partir de 11 heures le matin jusqu'à la fin des classes. Même au mois de janvier, elle est chaude. Alors imaginez, aujourd'hui, ce lundi, ce sera dégueulasse, prévoit-elle. Pour Annie-Claude Garon-Patnaud, enseignante en première année dans la Couronne Nord, il sera facile de s'adapter pour rendre cette journée agréable puisqu'aucun enseignement n'est prévu. Il fera chaud, mais on prendra les mesures nécessaires comme on le fait toujours, dit-elle. Aller lire une histoire au sous-sol, aller s'arroser dehors, réduire les activités, boire beaucoup d'eau. Je ne pense pas que les camps de jour fermeront cet été. Je ne vois pas pourquoi on fermerait lors de cette dernière journée festive qui clôture une année scolaire. Pour elle, la dernière journée de classe constitue un rituel important. Elle représente l'occasion de remettre des albums de souvenirs qu'elle a pris le temps de confectionner à ses élèves, de leur donner un dernier câlin et de faire une aide d'honneur aux finissants. Dimanche matin, le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, a encouragé les écoles à prendre des mesures draconiennes pour lutter contre la vague de chaleur, quitte à garder leurs portes closes. Le réseau doit prendre tout, écrit en majuscule, tous les moyens pour assurer la sécurité et le bien-être des élèves et des équipes écoles, a indiqué Bernard Drainville dans un message publié sur X, « S'il faut fermer des écoles, faites-le ». Dans une lettre accompagnant ce message, la sous-ministre adjointe Stéphanie Vachon a précisé qu'elle incitait les centres de services scolaires à mettre en place toutes les mesures préventives qu'ils jugeront nécessaires afin d'assurer la sécurité de tous. La Fédération autonome de l'enseignement, la FAE, un regroupement de syndicats représentant près de 60 000 enseignantes au Québec, demande quant à elle la fermeture de toutes les écoles lundi. Elle déplore qu'aucun mot d'ordre clair n'ait été donné au centre de services scolaires par le ministère de l'Éducation. À la une du Devoir, autre sujet brûlant d'actualité, c'est pas un jeu de mots, là, mais c'en est un involontaire. Frappe américaine en Iran, les yeux du monde rivés sur l'Iran. Le choix de Donald Trump d'impliquer directement les États-Unis dans le conflit israélo-iranien aura des répercussions, estiment des experts. C'est Mathilde Beaulieu-Lépine qui signe le texte dans le Devoir d'aujourd'hui. Avec ses bombardements furtifs B-2, les États-Unis ont frappé 3 sites nucléaires iraniens samedi soir, dont celui de Fordo, caché profondément au creux d'une montagne. Et maintenant, doit-on s'attendre à une escalade? Pour y voir plus clair, le Devoir à discuter avec des experts et des acteurs impliqués. Devrait-on craindre la situation, que la situation ne dégénère en conflit mondial? Thomas Junot, professeur à l'Université d'Ottawa, est catégorique. Pour moi, la réponse à cette question-là est très claire et c'est un non total. Une troisième guerre mondiale, ce n'est pas une guerre régionale avec l'Iran, affirme-t-il. Mais certes, cette peur ne surgit pas de nulle part. Cette idée de troisième guerre mondiale circule beaucoup depuis des années dans certains milieux d'extrême droite, notamment chez les loyalistes MAGA, note Thomas Junot. Il dénonce les « forever wars » des États-Unis au Moyen-Orient, qu'il juge responsables du chaos mondial. Mais en fait, selon le professeur, le conflit ne deviendrait une confrontation internationale totale que si les grandes puissances actuelles devaient venir à se confronter. Pour qu'on commence l'engrenage vers une troisième guerre mondiale, il faudrait vraiment voir la Russie et la Chine aider l'Iran d'une manière directe, proactive et significative, détaille M. Junot. Or, ce n'est pas du tout le cas. Il considère que la Chine et la Russie sont actuellement en marge du conflit, même si les deux puissances ont condamné les actions des États-Unis envers l'Iran dimanche. Reste que le choix du président américain d'impliquer directement et frontalement les États-Unis dans le conflit aura des répercussions. Ce qu'on voit, c'est que l'interventionnisme militaire américain au Moyen-Orient n'est pas terminé, affirme Thomas Junot. Malgré ses promesses répétées de retrait, Trump réactive aujourd'hui cette posture avec force. S'il considère que ce n'est pas demain qu'on va voir des représailles de la part de l'Iran, le professeur à la retraite spécialisé dans les enjeux nucléaires, Michel Fortman, est convaincu qu'un retour du balancier attend nos voisins du Sud. Je pense qu'une des certitudes, c'est que si le gouvernement iranien survit aux événements actuels, l'effort de construire des armes nucléaires va se poursuivre et probablement, en fait, s'intensifier. Surtout, ce qui frappe l'ancien professeur, c'est que cette montée de la peur du nucléaire survient exactement 80 ans après le bombardement de Hiroshima. Et je reviendrai sur la une du Journal de Montréal qui parle d'un autre hôpital qui fait pitié. On y crève l'été, on y gèle l'hiver. Et une bonne nouvelle, un Québécois champion de la NBA. NBA ou NBA. Hein? On est aux États-Unis. NBA.
Si j'avais un champ, ça changerait ma vie. J'irais me promener sur le bord de la Gaspésie. Si j'avais un char, ça changerait ma vie. J'aurais le nez de roi et toi aussi, ma jolie. J'avais un char, j'en fais ma maison.
Si j'avais un char, une chanson de Stephen Faulkner.
Merci. Et c'est à votre tour, Daniel. Vous nous parlez d'un texte, en fait, vous partagez avec nous un texte écrit par Rose Aimée Autonne-Témorin.
Oui, déménagement, c'est le thème des boîtes de livres et autant de fantômes. C'est ce texte de Rose Aimée, alors qui a paru dans la presse du 11 juin dernier. Toute passion, certes, confine au chaos. La passion du collectionneur, en ce qui la regarde, confine au chaos des souvenirs. C'est qu'en 1931, après un divorce acrimonieux, le philosophe allemand Walter Benjamin s'est posé dans un petit appartement meublé avec ses 2000 livres. L'exercice a mené à un essai, « Je déballe ma bibliothèque, une pratique de la collection ». Et cette phrase au sujet des souvenirs a particulièrement frappé Rose Aimée lors de sa lecture. Probablement parce qu'elle donnait enfin un sens à l'épreuve à laquelle elle se soumet à chaque déménagement, comme elle dit, pacter ma trolley de bouquins. Je n'aime pas accumuler les biens, sauf les recueils de poésie, les romans, les essais et tout ce qui comprend une reliure. Quand l'heure est venue de changer de toit, ce sont mes livres qui me demandent le plus de temps et aussi de biceps. Je m'en veux alors de leur accorder une telle valeur, eux qui ne valent pourtant pas grand-chose sur le plan pécuniaire. Je ne possède pas d'édition rare, contrairement à Walter Benjamin, qui était un véritable collectionneur. Je conserve plutôt la trace de tout ce que je lis au cas où j'aurais besoin de m'y replonger, et je le comprends maintenant pour me souvenir de temps révolus. Pour Walter Benjamin, la bibliothèque est un lieu de mémoire. Les ouvrages nous ramènent aux endroits où on les a achetés, autant qu'aux tablettes sur lesquelles on les a jadis déposés. Par la bande, ils nous replongent dans certaines époques et versions de soi. Ah, Rose Aimée sourit chaque fois que mes yeux se posent sur le premier livre de grande, entre guillemets, que ma sœur m'a offert quand j'avais une dizaine d'années, le titre « Ciel d'Afrique et pattes de gazelle ». Mon cœur se serre devant les nombreux ouvrages de mon père dont j'ai hérité à sa mort. Puis, j'ai de vagues remords à la vue du roman que j'ai emprunté à la bibliothèque municipale sans jamais le retourner. On l'a tous fait ça, il y a 18 ans. Et elle mentionne aussi, si vous êtes policier, vous pouvez venir me
bien
chercher.
Oui. Mais il n'y a jamais trop tard pour retourner un livre.
Non, de toute façon, on peut s'excuser. Puis,
oui. Et puis, maintenant, je pense que la plupart des bibliothèques ne chargent plus. Là. Il n'y a plus d'amende à payer parce que là, ça coûterait vraiment cher.
Une fortune. Pour les policiers, son prénom, c'est Rose Aimée. Alors, ses livres, d'ailleurs, la ramènent, Rose Aimée, à un état d'enfant, de fille, d'étudiante, à des mondes maintenant un peu flous, autres, anciens et pourtant bien. Laisser mes livres dans un centre de dons, ce serait comme offrir mon passé au suivant, et pour elle, c'est impossible. Alors, j'accumule et je trimballe. Il y a Alberto Manguel, a lui aussi voué un essai, « Je remballe ma bibliothèque » au sujet de la collection de livres en 2018. Et imaginez, l'auteur a dû mettre ses 40 000 ouvrages dans des boîtes en quittant malgré lui la France il y a quelques années de cela. Autant vous dire, comme j'ai lu ailleurs dans un article, ça lui a coûté une petite fortune sur le bateau.
40 000 livres, ça fait combien de boîtes, ça?
Ça en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis d'ailleurs, Chantal Guy a visité sa bibliothèque nomade à Alberto Manguel, et c'est en février 2019. Elle y a consacré d'ailleurs un article. Justement, 40 000 livres, c'est pas facile à stocker. Alors, il y a énormément de boîtes, et c'est les éditions Leméac à Montréal qui ont entreposé depuis au quatrième étage les livres de M. Manguel, parce qu'il n'y a pas d'autre endroit, puis ils sont assez gentils de l'avoir fait. Et Alberto Manguel, autant vous dire, c'est un amoureux des livres qui souhaite d'ailleurs léguer sa collection au Québec. Mais entre-temps, il a transformé sa collection en un livre. De plus, « Je remballe ma bibliothèque », vous avez le goût de lire. Démanteler sa bibliothèque de 40 000 volumes, patiemment ramassé au fil de toute sa vie, ben pour lui, c'est comme si on me taillait les membres, qu'on me coupait les bras ou les jambes, parce que c'était mon corps, mon identité physique, le lieu qui me représentait le mieux, je dirais mieux que moi-même, c'est ce qu'il confiait en 2019 à Chantal Guy. Donc, quand Alberto, avec Chantal Guy, se rend à l'entrepôt, pour lui, il mentionne à Chantal Guy, ben, quand je vais à l'entrepôt, c'est une visite au cimetière. D'ailleurs, si vous avez le goût de lire l'intégrale de cet article qui est paru dans la presse du 11 février 2019, avec c'est Chantal Guy qui écrit cet article. Mais là, je reviens à l'article de Rose-Aimée Automne-Morin. Non, c'est plutôt Rose-Aimée Automne-T-Morin. Alors, dans « Je remballe ma bibliothèque », Alberto Manguel, elle en fait mention, décrit parfaitement le lien sentimental qui peut nous unir au livre. Ceux qui nous ont été offerts gardent à jamais la trace de l'ami, du mentor ou de l'amour qui nous en a fait cadeau. Pour l'auteur, nos bibliothèques sont ainsi hantées de fantômes bienveillants. Et croyez-moi, c'est le genre de spectre que je veux déménager de maison en maison. C'est son souhait à Rose-Aimée. Maintenant, j'admets que l'exercice n'est pas qu'une douce promenade dans des souvenirs heureux. Il est aussi très plate. Hein? M'asseoir pour remplir des boîtes pendant des heures, c'est nettement moins envoûtant que trouver le nouvel emplacement de mes précieux trésors. Le déballage de livres, peut-être parce qu'il est essentiellement chaotique, est un acte créatif. C'est ce qu'écrit Alberto Manguel. Walter Benjamin, lui, parle d'un moment fascinant qui le stimule au point où il lui est difficile de s'arrêter une fois lancé. Une boîte mène à l'autre et, pendant ce temps, le temps se suspend. Remballer, au contraire, c'est s'exercer à l'oubli. C'est ce que croit Manguel, comparant l'exercice à un film qu'on regarderait à l'envers. Il écrit aussi, parce que si toute bibliothèque est autobiographique, son remballage semble avoir quelque chose d'un auto-éloge funèbre. Ça peut bien être lourd, c'est ce que dit Rose-Aimée. Il y a aussi découvrir la bibliothèque de quelqu'un, puis en même temps, c'est un prétexte à discussion. Et Rose-Aimée, elle aime bien l'idée qu'on puisse mieux comprendre une personne en jetant un œil au livre qu'elle possède, cela dit. Quand j'entre chez quelqu'un pour une première fois, sa bibliothèque est le lieu que j'investis spontanément. Je fouille, je feuillette, je ne porte aucun jugement, je vois plutôt les livres comme d'excellents prétextes pour lancer des discussions qui me permettront d'apprendre à connaître mon hôte. Je n'oserais jamais présumer quoi que ce soit à la simple vue de titre. J'en possède moi-même beaucoup trop que je trouve gênant. D'ailleurs, la prochaine fois qu'on me demandera pourquoi je garde tous mes livres, même ceux que je n'aime pas, je pourrai piquer à Alberto Manguel ce formidable argument au cas où j'aurais un jour besoin d'un exemple de livre mauvais selon moi. Bien plus important encore, si je traîne une collection toujours plus grosse de déménagement en déménagement, c'est parce que j'ignore quelles sont les surprises que mes livres me réservent. C'est ce que j'ai compris grâce à « Je remballe ma bibliothèque ». Plus précisément, en lisant ce passage, je savais que dans cet espace familier entre les couvertures, je prendrais un soir un volume du Dr. Johnston ou de Voltaire que je n'aurais encore jamais ouvert et découvrirais une phrase qui m'attendait depuis des siècles. Ah, que c'est beau de mentionner Rose-Aimée. Une multitude de phrases m'attendent toujours. Il y en a même certaines que j'ai déjà lues, mais qui prendront un sens nouveau au gré des chapitres de ma vie. Les livres sont vivants et, selon Alberto Manguel, ils contiennent la possibilité de nous guider dans l'expérience et le savoir des autres en nous offrant l'intuition de l'incertain avenir et la leçon d'un passé immuable. Tant d'autrices et d'auteurs ont veillé à nous laisser des idées puissantes, salvatrices, guérisseuses ou révolutionnaires. C'est la sueur de leur front que je traîne avec moi parmi autres fantômes et autoportraits. Et pour elles, ça vaut bien le jus de bras du 1er juillet.
Bien d'accord.
C'est bon. Est-ce que vous avez beaucoup de livres, vous, Hélène?
Oui, j'ai deux bibliothèques. Et puis, quelquefois, j'essaie de faire du ménage, mais c'est extrêmement difficile parce que, justement, ces livres-là sont des témoins de notre parcours de vie et puis chaque livre nous apporte quelque chose, mais ça m'arrive d'élaguer un peu. Et vous, Danielle?
Oui, moi aussi, j'ai élagué il n'y a pas longtemps. J'avais donné un certain temps. Pendant la pandémie, je me suis renflouée. Oui. Puis là, j'ai redonné parce que je vais à la bibliothèque aussi. Et depuis quelque temps, j'offre mes services bénévoles à une bouquinerie, l'économie circulaire. Donc, je suis entourée de livres. J'aime bien avoir des livres autour de moi. Je trouve ça intéressant.
Absolument. Je suis bien d'accord avec vous. Les livres, c'est la vie. On ne s'ennuie jamais avec un livre. Ma mère me dit ça souvent. C'est comme un ami fidèle. Hein. On le range dans la bibliothèque en autant qu'on ne se fasse pas piquer le livre. Mais il y a des livres qu'on prête puis qu'on ne retrouve jamais, puis on ne se souvient pas à qui on les a prêtés.
Oui.
Ça peut être fâchant.
Oui, c'est fâchant. Puis je vous dirais que j'ai rencontré récemment une dame qui a une dégénérescence maculaire.
Oui.
Et un de ses plus grands deuils, c'est de ne plus pouvoir lire comme elle pouvait. De ne plus lire. Parce qu'elle ne peut pas lire.
Elle peut lire avec, autrement, là, en empruntant des livres audio.
Oui.
Ou en se faisant faire la lecture.
Elle aimait bien le papier, oui, faire la lecture aussi. Et puis, si elle avait à choisir, elle préférerait être sourde.
Ah oui.
La vue, c'est pour dire. Hein?
Ah, ce sont des deuils immenses à faire quand on est, justement comme elle, amoureuse de la lecture et qu'on perd la vue. Alors, c'est un privilège d'avoir nos yeux pour lire, entre autres choses. Merci, Danielle. Et vous allez partager avec nous votre coup de cœur littéraire que vous avez dans votre bibliothèque, j'imagine.
Qui est retourné à la bibliothèque.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Un peu comme on lance un ballon sombre, je t'envoie des nouvelles de l'autre monde. Rien ne fit si tout va pour le mal, ça frôle la guerre mondiale. La planète est adieu à craint. Et comme les gens seront toujours les gens, ce qui se rapproche le plus de l'infini, ça reste l'humanité et l'étendue de sa connerie. Tout est plus triste depuis que tu es parti, mon ami. Tout est plus triste depuis que tu es parti, mon ami. Wow! Un peu comme on lance un ballon sombre, je t'envoie des nouvelles de l'autre monde. Ici on se nourrit de mirages en guise de bons présages. Rien n'a changé, chacun dans sa niche. Les pauvres seront pauvres et les riches seront riches. Les créateurs de contenants stupides nous scellent l'âme sous vide. Sinon tout va très bien pour la haine. Qu'est-ce que tu veux, l'horreur est humaine. Comme on dit, ça prend beaucoup d'humour. Oh non, c'est pas demain la veille que les hommes vivront d'amour. Tout est plus triste depuis que tu es parti, mon ami. Tout est plus triste depuis, tellement plus triste depuis. Tout est plus triste depuis que tu es parti, mon ami.
Ballon sonde, une chanson de J.F. Posé.
Oui, excellent auteur-compositeur qui faisait partie, qui fait toujours partie des Cowboys Fringants. Mais ici, c'est une première chanson solo de J.F. Posé qui s'adresse clairement à Carl Tremblay, trop tôt disparu. Et cette chanson est prémisse d'un album de J.F. Posé, Jean-François Posé, qui devrait paraître en octobre prochain. Et il va partir en tournée en décembre 2025. Les Cowboys qui arrivent deuxième dans le top 10 des groupes québécois. Je ne sais pas si vous avez lu le Cahier Week-end Journal de Montréal en fin de semaine. Ce Cahier Week-end a publié le top 25, donc des groupes québécois de tous les temps. Alors, c'est Beau Dommage qui est au sommet du palmarès des plus grands groupes québécois de tous les temps. Ensuite, les Cowboys. En troisième position, Harmonium, suivi des Colocs en quatrième place, Offenbach, Arcade Fire, Simple Plan, Les Bébés, Corbeau et Les Trois Accords qui ferment le bal du top 10 des groupes québécois. Alors là-dessus, on s'en va chez Danielle qui, elle, nous a préparé une deuxième chronique, en fait, pour nous parler d'un livre qu'elle aime particulièrement, même qui vous empêche de manger.
Ben tellement, je disais non pour aller à la piscine, non, je vais lire à la place. Je veux dire que j'étais obsédée pour le lire, mais
c'est rare que ça arrive. Ça.
Oui, c'est rare que ça arrive. Puis aussi, ben c'est un. Je vais vous poser une question. Je vais vous mettre en contexte un peu. En vous posant cette question, au-delà de l'Europe et des États-Unis, où trouve-t-on la plus belle collection de peintres au monde?
Au-delà, ailleurs qu'en Europe et
aux États-Unis, Amérique du Nord, où trouve-t-on la plus belle collection de peintres au monde? Des classiques.
L'Ermitage en Russie?
Non.
Est-ce qu'on dit Canada?
Non.
Non. Donnez-nous un indice.
Puis en ce moment, c'est un point chaud dans l'actualité.
OK. En Iran?
Oui. En Iran,
vrai?
Tout à fait. C'est une des plus belles collections au monde en Iran, mais je vais vous mettre dans
un autre... J'espère est protégée.
Ben écoutez, vous allez voir. Alors, tout d'abord, je vais vous parler du Shah d'Iran, hein. Et ça a commencé en 1967, entre autres avec le sacre de Faradiba Pahlavi, qui est la troisième épouse du Shah, et elle est vue comme un symbole de l'émancipation de la femme musulmane à cette époque. Elle est aussi surnommée l'impératrice des arts, et elle veut développer la culture en Iran et inaugure pour cela plusieurs établissements, dont, entre autres, en 1967, elle ouvre le musée d'art moderne. Et en 79, en Iran, il y a la révolution islamique qui avait en effet stoppé les ambitions de ce fameux musée créé par l'impératrice. Et les autres, le Shah et Farah, étaient pro-occidentales et ces œuvres-là contenaient des œuvres jugées impies, notamment des nus et des toiles signées d'artistes homosexuels. Et au moment de la révolution, l'établissement a été fermé. La collection, il y a eu de nombreux cinémas qui ont été incendiés, des bars qui ont été fermés, parce que c'était vraiment pro-occidental à l'époque du Shah. Il dépensait beaucoup d'argent. Mais il y a un jeune gardien, et d'où le titre du livre, Le gardien de Téhéran, de Stéphanie Pérez. Le gardien, c'est Firouz Shabazi Mogadam, qui aujourd'hui a dans les 70, il a œuvré quasiment seul à son sauvetage dans des circonstances plutôt rocambolesques. Et c'est ce pan extraordinaire de l'histoire de l'Iran à l'époque du Shah et à l'arrivée de Khomeini qui a inspiré ce roman de Stéphanie Pérez, qui est reporter et qui est spécialiste du Moyen-Orient. Ça a été publié en 2023 et on dit que, même on dit, puis je l'ai lu, c'est basé sur un travail d'enquête approfondi. Il y a des témoignages. D'ailleurs, dans son livre, elle ne mentionne pas le nom du gardien en question, Firouz, pour le protéger. Dans un article que j'ai trouvé, j'ai vu le nom du monsieur. Et aussi, il y a des noms, d'autres noms qu'elle masque, qu'elle ne nomme pas pour protéger ces gens-là. Par contre, on retrouve des acteurs dans toute cette aventure d'ouverture de musée. Puis c'est à l'époque où les Américains étaient là et il y avait des acheteurs pour l'impératrice qui lui trouvaient des peintures. Elle était très connaissante dans les peintures, puis elle voulait acquérir certaines peintures et elle avait l'argent, mais il dépensait allègrement le chat et elle. Puis, on calcule que ce musée actuel contient la valeur de sa collection est estimée à 3 milliards d'euros. Une des plus grandes collections au monde. Et on a des œuvres comme Picasso, Gauguin, Chagall, Francis Bacon ou Bacon, Andy Warhol, des trésors qui sont restés sous clé jusqu'en 2015 parce que finalement, ça a été... Cette collection-là a été préservée grâce à Firouz, qui s'en est occupé comme de la prunelle de ses yeux. Curieusement, ce jeune homme-là, à l'époque, venait d'un milieu pauvre et il avait été recruté par le cousin de Farah Diba, l'impératrice. Et puis, à l'arrivée de la révolution islamique et des gens autour de Khomeini, il a tout fait pour préserver parce que les gens là-bas, ils connaissaient pas. Puis lui, curieusement, il voyait des scènes, mais ça lui a créé des émotions extraordinaires. Puis il s'est senti, pour lui, on ne pouvait pas briser, détruire ces œuvres-là.
Mais en même temps, tout le monde était privé de les voir, sauf quelques privilégiés.
Non, mais c'est ça, c'est qu'ils ont été, au moment de la révolution islamique, ils ont été, je ne vais pas tout livrer tous les punchs, on les a descendus des murs, on les a mis dans un coffre-fort au sous-sol, donc ils étaient cachés de 79 à 2015.
Ouais.
Donc depuis un certain temps, ils ont été enfermés et lui s'en occupait et puis il déjouait aussi les gardiens, ceux qui supportaient...
C'est parce qu'on voulait protéger les tableaux, mais sauf qu'il n'y a personne qui pouvait les admirer, là.
Non.
Mais depuis 2015, on peut.
On peut les admirer. Et pour être allé dans ce pays, en Iran, en 2019, je devais être d'autres, les derniers touristes à aller en Iran. Je me souviens d'être allé dans un musée, un musée avec des jeunes musiciens, un musée qu'on gardait secret, et puis d'avoir découvert des gens talentueux. Tout se fait sous le couvert du secret. On montre pas, on a peur. Et puis, c'est un livre qui est extraordinaire. Puis j'en garde un beau souvenir de ce voyage en Iran, parce que c'est un pays qui est beau à voir, qui est particulier. C'est un peuple très gentil. On avait des consignes aussi quand on allait dans ce pays de pas approcher les gens, que les gens nous approchent. Il était interdit de répondre à leurs questions. Et la question qui revenait le plus souvent, les gens nous demandaient « Puis comment vous trouvez notre pays? » Puis nous de répondre, on peut pas répondre à cette question. Alors, c'est un pays où j'ai senti la tension. Et au moment de mon voyage, entre autres, il y a eu des émeutes. Moi, j'étais dans le nord, dans les montagnes. Puis il y avait des émeutes à Téhéran et à Isfahan. Et puis, j'ai vécu aussi voir l'autoritarisme, tout le système informatique, les Facebook, tout était fermé, c'était interdit, on était coupé du reste du monde à un point tel que nos familles s'inquiétaient lorsqu'on était là-bas, puis c'est plus facile de les appeler pour leur dire que tout allait bien là. Mais
qu'est-ce qui vous avait attiré? Pourquoi vous aviez décidé d'aller en Iran?
En Iran, parce que j'ai côtoyé dans mes classes de francisation de nombreux Iraniens et qu'ils étaient des gens gentils, des gens aimables. Et après avoir quitté ce domaine, j'avais promis à certains que j'irais voir leur pays. Et puis l'Iran, par une chance, s'est présenté sur mon parcours et j'ai dit, faut que je saute sur l'occasion d'y aller parce qu'on sait que c'est un pays qui est particulier, là, qui regorge d'histoire. Et c'est un peuple chaleureux aussi. Donc, le gardien de Téhéran, pour moi, ça a été une surprise de découvrir ce musée, cette collection. Je me rappelle, jeune, d'avoir aussi regardé les Paris-Match, les Jours de France avec l'impératrice et le chat. Et il dépensait beaucoup d'argent. Ça, je l'ai appris pas mal, là. Je l'ai découvert aussi quand j'ai vu les bijoux de la royauté. Écoutez, moi, j'en reviens pas de la dépense qu'il faisait. On est allé voir les joyaux de la couronne. des plateaux là avec des montagnes d'émeraudes, des montagnes de topazes, des montagnes de rubis, des montagnes de diamants. Ils dépensaient allègrement.
La richesse extrême. Là.
La richesse extrême. Là, puis aussi de voir, quand vous lirez ce livre, c'est de voir le contexte aussi pro-occidental. Là, on est en Orient. Ils ont peut-être poussé un peu trop. L'ayatollah, ben là, on remet en question des valeurs d'un pays aussi. Là. Donc, puis là, les Américains étaient là à cette époque. Les Américains sont là en ce moment. Qu'est-ce que ça va donner? C'est intéressant de lire pour comprendre les certaines tensions qu'on peut, dont on entend parler dans l'actualité. Puis ce livre-là nous permet de mettre en contexte à travers des œuvres d'art. C'est quand même pas rien.
Quel est le titre, Daniel, de ce livre?
Le gardien de Téhéran, et c'est de Stéphanie Pérez. Ça a été publié en 2023.
À quelle maison d'édition?
Attendez, puis je l'avais dans mes affaires. La maison d'édition, je l'ai. Je pense que c'est Plomb.
Ça se peut bien.
Oui, attendez, puis je vais vous trouver. Oui, il y avait aux éditions Récamier et en poche chez Plomb. C'est un livre de 200 pages, 200 quelques pages, mais tout est pertinent.
Bien, merci, vous êtes convaincue et convaincante. Alors, Daniel, passez une belle journée, une joyeuse Saint-Jean, puis on se retrouve la semaine prochaine.
Oui.
On sera là. Non, on sera pas là le 30 juin, c'est vrai, on est en congé.
Ah bon, oui, on est en congé.
Alors, bon. On se retrouve dans deux semaines.
Parfait, au revoir.
Au revoir.
S'il y a tant à faire, pourquoi niaiser devant ce beau parterre? Le temps précieux des gens soucieux de trouver à qui vendre. Je l'ai perdu, un peu vendu, faut bien se faire entendre. Thank you.
Pourquoi chanter? C'était la sublime Louise Forestier.
Oui, super qualificatif qui lui va à merveille dans cette interprétation de cette très grande chanson. Une chance qu'il y a la musique hein, pour nous réconcilier avec la vie parce que de ce temps-ci, l'actualité, là, c'est d'une tristesse sans nom à plusieurs points de vue. À la une du Journal de Montréal, un autre hôpital qui fait pitié. On y crève l'été, on y gèle l'hiver. Imaginez, vous êtes à l'hôpital, puis en plus d'être malade, de souffrir, bien, vous avez chaud, vous avez froid. Les vieilles fenêtres de l'hôpital d'Amos, en Abitibi-Témiscamingue, sont tellement désuètes que les malades gèlent l'hiver et sont comme dans une véritable serre à tomates lorsque le mercure saute. Le mercure monte, je ne sais pas s'il saute, mais c'est écrit « monte ». Tout tombe en ruine. Il y a plusieurs hôpitaux de l'Abitibi-Témiscamingue qui auraient besoin de rénovation, comme le montrent les photos envoyées par des employés de la région qu'on peut voir dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. Entre autres, l'urgence de Sainte-Terre, l'hôpital de Rouyn-Noranda et aussi l'hôpital d'Amos, où paraît-il que les fenêtres du quatrième étage ne sont pas étanches. Il y a des panneaux de polythène qui sont installés chaque hiver pour limiter les courants d'air. Toutes sortes de rubans adhésifs qui ont été collés sur les fenêtres au fil du temps pour espérer bloquer les courants d'air. Il y a des employés de l'étage de pédiatrie qui avaient installé une couverture pour bloquer l'air froid il y a quelques années. Et puis, bien, quand il fait chaud, on essaie d'ouvrir le tout, mais c'est pratiquement impossible. Alors, voilà pour la une principale du Journal de Montréal. Nouvelle plus agréable. Ici, un Québécois champion de la NBA. On en parle partout. Le joueur de basketball québécois Logan Dort est champion de la NBA, le Thunder l'ayant emporté par le pointage de 103 à 91 hier soir à Oklahoma City lors du 7e match de la finale de la NBA. Le bonheur des uns faisant souvent le malheur des autres, c'est un autre athlète originaire de Montréal-Nord, soit Bénédicte Mathurin, qui est arrivé à court d'un championnat à l'issue de ce match ultime. Alors, si on revient à Dort, Lugans Dort, il a 26 ans et il devient seulement le 4e joueur originaire de la belle province à être couronné champion dans la NBA après Chris Boucher, Joel Anthony et Bill Wennington. Comment faire face à la chaleur? Voici des conseils d'Environnement Canada pour vous aider à vous protéger de la chaleur extrême. Buvez de l'eau souvent et avant même d'avoir soif afin de remplacer vos liquides. Fermez les stores ou les toiles et ouvrez les fenêtres s'il fait plus frais à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mettez la climatisation en marche, si vous en avez bien sûr. Utilisez un ventilateur ou déplacez-vous dans un endroit plus frais de votre espace de vie. S'il fait chaud dans votre espace de vie, allez dans un lieu public frais comme un centre de rafraîchissement, un centre communautaire, une bibliothèque, des parcs ombragés. Et je pense aussi spontanément des salles de cinéma. Des fois, c'est comme très, très, très climatisé. Alors, n'oubliez pas votre coton ouaté. Suivez les conseils des autorités de santé publique de votre région. Planifiez et organisez vos activités en plein air aux heures les plus fraîches de la journée. Limitez l'exposition directe au soleil et à la chaleur. Portez des vêtements légers, pâles et amples et un chapeau à large bord. Et ne laissez jamais des personnes, en particulier des enfants ou des animaux, à l'intérieur d'un véhicule garé. Vérifiez le véhicule avant de le verrouiller afin de vous assurer qu'il ne reste personne à l'intérieur. Environnement Canada appelle aussi le public à s'enquérir de leurs voisins vivants seuls, y compris les aînés, plus à risque face à la chaleur pour s'assurer qu'ils vont bien. question qu'on se pose à l'aube d'un congé. Même il y en a qui sont en congé actuellement, mais ouvert ou fermé pour la Saint-Jean? C'est dans le devoir qu'on nous donne toutes les réponses. À l'occasion de la Fête nationale du Québec, le mardi 24 juin, la majorité des grandes surfaces et des centres commerciaux fermeront leurs portes, tout comme les succursales de la Société des alcools du Québec et de la Société québécoise du cannabis. Les dépanneurs et les petites épiceries, en revanche, resteront accessibles. Les marchés publics montréalais, Jean Talon, Atwater et Maisonneuve, mais aussi le Grand Marché de Québec demeureront ouverts, tout comme les pharmacies qui continueront d'offrir leurs services selon les horaires habituels ou selon des horaires réduits. Ensuite, Poste Canada à l'arrêt. La plupart des services municipaux seront suspendus, les bureaux administratifs de la Ville de Montréal, les mairies d'arrondissement, les comptoirs de permis et les bureaux d'accès seront fermés pour la journée. Même scénario du côté de la Société de l'assurance automobile du Québec et des bureaux de poste. Les collectes de déchets seront toutefois maintenues à Montréal et à Québec et les écocentres resteront ouverts à Montréal. À noter que les restaurants, les bars, les stations-service pourront accueillir leur clientèle selon l'horaire habituel. Le réseau de transport en commun fonctionnera quant à lui au ralenti. La Société de transport de Montréal aura des horaires modifiés pour ses lignes d'autobus, tandis que la Société de transport de Laval et le réseau de transport de Longueuil adopteront l'horaire du dimanche. Du côté du réseau express métropolitain, les heures d'ouverture resteront les mêmes, mais la fréquence des passages sera celle en dehors des heures de pointe. Bonne nouvelle pour ceux qui veulent profiter du fleuve. Les navettes fluviales seront en activité, mais certaines seront selon l'horaire du dimanche. Et finalement, les activités ne manqueront pas pour ceux qui souhaitent profiter du congé de la Fête nationale du Québec. Musées et attractions culturelles, dont Pointe-à-Calière, le Centre des sciences de Montréal, le Musée des beaux-arts de Montréal, le Musée des beaux-arts de Québec, le Musée de la civilisation, accueilleront les visiteurs selon leurs horaires normaux. Le biodôme, la biosphère, le jardin botanique, l'insectarium et le planétarium seront également ouverts au même titre que les sites de Parc Canada. Les cinémas, le parc d'attractions La Ronde et les complexes aquatiques seront eux aussi accessibles, mais les bibliothèques seront fermées demain. Alors, si vous voulez aller prendre l'air plus frais, on nous dit que les bibliothèques seront fermées le 24. Faudra trouver d'autres endroits frais. On s'en a mentionné quelques-uns tantôt. Appel à des artistes en danse. Danse Cité est à la recherche de deux artistes en danse dans le cadre d'un projet de médiation culturelle réunissant des artistes et des personnes vivant avec une cécité partielle ou totale. Conçu comme un laboratoire de recherche et de création, le projet rassemble trois artistes en danse et huit personnes aveugles ou semi-voyants qui prendront part à trois blocs intensifs de deux jours et une table ronde finale ouverte au public. Les personnes aveugles ou semi-voyants-voyantes participeront pleinement, à titre de consultants-consultantes sensorielles, aux activités d'exploration, de création et de dialogue. Pour les artistes, le projet sera une occasion d'approfondir leurs pratiques et de développer des outils de création adaptés. Le projet est dirigé par l'artiste Émile Pinault, qui guide l'ensemble des rencontres. Bloc 1, 27 et 28 septembre. Bloc 2, 18 et 19 octobre. Bloc 3, 15 et 16 novembre, toujours en 2025. Et la table ronde publique sera la semaine du 8 décembre 2025. Les dates sont à venir sous peu. La date pendant la semaine du 8 décembre. Condition, avoir une pratique de mouvement et de création chorégraphique en danse, performance. Les artistes retenus recevront une rémunération pour leur participation, forfait global de 1 500. Les activités auront lieu en français. Alors, merci de faire parvenir à Maude, directrice du développement et des communications, à communication@danse-cité.org, votre CV plus une lettre d'intention, une page maximum décrivant votre pratique, démarche artistique, les raisons pour lesquelles vous souhaitez travailler avec la communauté des personnes aveugles et semi-voyantes et ce que vous souhaitez explorer à travers ce projet.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Ça naisse et décide, cette année je viens et abute de mes idées, cette année je prends le virage numérique. 40 ans en retard en Amérique du Nord, britannique. En haut de la montagne, hier soir, au pied de la croix, je crois que j'ai retrouvé un petit morceau, la confiance du public. Je veux mêler de plein de couleurs en même temps, à chercher la manière d'un vieux chandail de leurs parents. Je connais du monde, haute sœur de leurs affaires, qui oublient de temps en temps. Ça va de plus en plus. Pour déjeuner, la tête baissée, le monde entier ben aligné sur ma journée, le dos droit.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Je veux contrer ma vie.
C'était la chanson Porcelaine de Bon Enfant, j'allais dire Beau Dommage. Et on écoutait juste avant Commande Bord et la chanson Tu penses-tu?
Merci beaucoup. Bon Enfant qui va participer, si je ne m'abuse. Vous pourrez vérifier, Mathieu, pour moi, s'il vous plaît, au grand spectacle de la Fête nationale à Montréal, qui est demain, 24 juin, au Parc Maisonneuve. Il me semble que j'ai vu le nom dans la foulée des artistes qui vont participer à ce spectacle-là. Il y a tellement de spectacles. On y reviendra de toute façon avant la fin de cette émission. Deux enfants lourdement handicapés de la région sont à la recherche d'une nouvelle famille. Sam et Alex, qui sont des prénoms fictifs, ont des besoins complexes. Il n'a pas été possible de trouver un nouveau toit pour cette fratrie parmi les 645 familles d'accueil de l'Estrie. En lançant un appel à la population, le CIUS et l'Estrie CHU espèrent trouver la perle rare. Sam et Alex sont deux enfants de 7 et 9 ans qui présentent une déficience intellectuelle et une déficience physique. Ils se déplacent en fauteuil roulant, sont alimentés par tubes et ont des besoins importants sur le plan du soutien aux activités de la vie quotidienne, explique Julie Pearson, directrice adjointe des programmes en déficience au CIUS de l'Estrie CHU. Ces enfants sont actuellement hébergés dans un centre hospitalier de l'Estrie. C'est une fratrie, donc nous cherchons vraiment un milieu capable d'accueillir les deux enfants. Ce sont des enfants souriants, attachants, qui aiment les animaux, poursuit Mme Pearson. Étant donné que la complexité de leur état de santé, leur future famille doit pouvoir leur consacrer beaucoup de temps. On cherche aussi quelqu'un dont le milieu de vie est adapté sur le plan physique, précise-t-elle. Le CIUS souhaiterait idéalement trouver une famille en Estrie, mais il n'exclut pas les candidatures en provenance d'autres régions. On pourra collaborer avec les établissements de ces régions. Je tiens à rassurer les personnes intéressées. Notre équipe de professionnels restera dans la vie de ces enfants. On va les accompagner, assure Mme Pearson. Ce type d'appel à la population a déjà porté fruit par le passé. Pour obtenir plus d'informations, les personnes intéressées peuvent contacter le CIUS de l'Estrie CHU par téléphone 819-346-8471, poste 58318. Je répète, 819-346-8471, poste 58318, par courriel recrutement rtf.cius. Alors, recrutement rtf.cius, C-I-U-S-S-S-E, trait d'union, CHU. CHUS, @, là, il y a 4S, .gouv.qc.ca. Je pense qu'au téléphone, ça va être moins compliqué. 819-346-8471, poste 58318. Et puis, les personnes intéressées pourront obtenir plus d'informations, évidemment, sur la fratrie afin de prendre une décision éclairée, souligne Julie Pearson. Le CIUS de l'Estrie CHU a déjà commencé à recevoir des appels. Des cornets qui rapportent gros, c'était sur TVA.nouvelle, une nouvelle qui a été publiée le 18 juin, pour parler de la journée du blizz glacé qui s'est déroulée le 14 juin dernier et qui a permis d'amasser 7 546 $ pour la ressource d'aide aux personnes handicapées. Les 23 bars laitiers du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie participants se sont engagés à verser 1 $ à la ressource d'aide aux personnes handicapées pour chaque cornet Blizz vendu. Cette année, pour la 4e édition de l'activité, 7 546 $ ont été amassés, ce qui correspond à 824 $ de plus que l'édition précédente dans Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, les Basques. 7 bars laitiers se sont impliqués. Alors, je les nomme. Le Snack Bar d'Amour à Rivière-du-Loup, la crèmerie du potager à l'île verte, le Blizzaroïde bar laitier givré à Saint-Pascal et à Rivière-Ouel, les petits bonheurs de Marguerite à Saint-Alexandre de Kamouraska, le bar laitier fromagerie Le Détour à Témiscouata sur le lac, le bar laitier fromagerie des Basques à Notre-Dame-des-Neiges. Un succès grâce aux partenaires et à la population. Un tel succès est le fruit de l'implication des bars laitiers de notre grand territoire. L'argent recueilli ira directement à la ressource qui vise à améliorer le quotidien des personnes handicapées. Vous avez fait un petit lapsus tantôt en présentant Beau Dommage. On écoute ce groupe. Thank you.
chaussoir à Châteauguay, les pieds pendants au bout du quai, les pieds pendants au bout du quai, les pieds pendants au bout du quai. La rivière joue l'harmonica, ma blonde se baigne les pieds dans l'eau, ma blonde se baigne les pieds dans l'eau, ma blonde se baigne les pieds dans l'eau. C'est plein d'oiseaux qui courent le long de l'eau en chantant leur chanson d'oiseaux. Oh, 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 oh. C'est plein d'oiseaux qui courent le long de l'eau. Les enfants viennent en chaloupe, ils ont pêché trois crapets soleil, ils ont pêché trois crapets soleil, ils ont pêché trois crapets soleil. Les mouches à feu font des folies, les wawarons sont pas plus fins, les wawarons sont pas plus fins, les wawarons sont pas plus fins. Plus tard on ira sur le sable s'étend pour compter les étoiles filantes. Plus tard on ira sur le sable s'étendre. Sur le sable s'étend pour compter les étoiles filantes. Plus tard on ira sur le sable s'étendre. Dimanche au soir à Châteauguay, les pieds pendants au bout du quai, les pieds pendants au bout du quai, les pieds pendants au bout du quai.
Ah, l'harmonie du soir à Châteauguay de Beau Dommage.
Un grand classique, et je vous en ai parlé tantôt, du plus grand groupe québécois de tous les temps. Quel est le plus grand groupe québécois de tous les temps? Vaste question, sujette à de vifs débats. Ne reculant devant rien, une équipe formée de journalistes du Journal de Montréal, du Journal de Québec, de l'agence QMI et de TVA a décidé de trancher en constituant un classement des 25 meilleurs groupes produits par le Québec. Les critères, ampleur du succès, longévité, chansons qui ont traversé le temps, notoriété québécoise, notoriété internationale, qualité des concerts et aussi nos goûts personnels. Et Beau Dommage est arrivé bon premier, suivi au deuxième rang par les Cowboys Fringants et au troisième rang par Harmonium. Alors, où célébrer la Saint-Jean-Baptiste dans le Grand Montréal? Je vous en parlerai en dernière partie d'émission. Ici, j'ai une autre par actualité à partager avec vous qui a été publié sur ledevoir.com, une coalition qui dénonce la vétusté de l'Institut Douglas ou Douglas, un front commun composé de syndicats, de médecins, de travailleurs communautaires et d'infirmières a tenu un point de presse le 17 juin dernier, mardi dernier, aux côtés de la députée de Québec solidaire, Alejandra Zaga-Mendez, pour dénoncer la vétusté des différents pavillons où sont offerts des soins psychiatriques dans le sud-ouest de Montréal, l'un des plus importants du Québec. La députée de Verdun a pu constater le délabrement avancé des installations situées dans sa circonscription après une visite effectuée le 30 mai dernier, et durant laquelle elle a pris des photos et documenté des problèmes de moisissures, des plafonds endommagés, des façades dangereuses, une surcharge des systèmes électriques, des infiltrations d'eau notamment. Devant le portail de l'hôpital où plusieurs gardiens étaient postés et ne pouvant s'approcher des installations, plusieurs personnes ont pris la parole pour illustrer les facettes du délabrement. Maxence Corriveau, président du syndicat des professionnels en soins de santé de l'Ouest de l'île de Montréal et infirmier, a expliqué que les patients les plus jeunes sont installés dans les bâtiments les plus vieux. Il a également évoqué le manque criant d'espace alors que des unités prévues pour 24 patients en reçoivent jusqu'à 42. Devant le portail de l'hôpital, la chaleur était déjà intense mardi dernier. Il va faire quasiment 37 aujourd'hui, a ajouté M. Corriveau. Et on a des patients qui se trouvent à 4 dans une chambre sans climatisation. Mais impossible de l'installer, le système électrique n'est pas assez puissant. Mme Mendez était aussi accompagnée d'Alexandre Boiron, présidente de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux de l'Ouest de l'île de Montréal, et éducatrice de formation, et du docteur Simon Ducharme, psychiatre de l'Institut Douglas. Tous craignent une catastrophe compte tenu du délabrement des pavillons, dont les plus anciens ont été construits en 1881, d'autres dans les années 1940. En 2020, le gouvernement de François Legault annonçait que l'hôpital allait être modernisé. Mais depuis, le projet est demeuré à l'étude et n'a pas atteint les étapes suivantes, planification, réalisation, puis finalement, service. Madame Mendez appelle à accélérer la reconstruction de l'Institut Douglas et demande à ce que ce soit sécurisé l'argent, à ce que soit sécurisé l'argent pour ce projet d'ici le budget 2026, car selon elle, il faut éviter à tout prix que cela devienne un enjeu électoral. On écoute un groupe maintenant qui va aussi fêter la Saint-Jean. C'est Bleu Jeans Bleu qui sera au grand spectacle ce soir dans la capitale nationale sur les plaines d'Abraham.
Couvreur de profession, j'ai toujours eu une goutte dans le front. Force est d'admettre qu'en plein mois de juillet, quand le fond de ses shorts, c'est pas long que ça devient wet. Il arrive à la maison, toujours une demi-heure avant sa blonde. Elle sait qu'il sait qu'elle aime qu'il sent bon. Fait qu'il se pose toujours la question. Je saute dans la douche, je me savonne à fond, puis je mets du push-push, ben me swing la piscine. C'est d'admettre que son corps d'athlète au milieu de la joute, il est plus vraiment sec. Mettons qu'il sent pas bon, mais il aime se faire des rencontres. Quand il y a une date pas tard après sa game, il se pose toujours la même question. Je prends du temps de me laver.
Swing dans piscine, une chanson de Blue Jeans Bleu.
Où fêterez-vous la Saint-Jean cette année? Dans piscine? Je pense que c'est une bonne idée, mais sinon, il y a plein de fêtes familiales, de la musique un petit peu partout à travers le Québec, d'un bout à l'autre du Québec, devrais-je dire. Par exemple, à Laval, aujourd'hui, le Centre de la nature de Laval accueille son propre grand concert à compter de 20h30. Et parmi les invités, les artistes qui vont chanter Cœur de pirate, Bruno Pelletier, Fouki, Sarah Dufour, Mozaïen, Vulgaire Machin, Zao, Rose et j'en passe. C'est donc aujourd'hui. À Québec aussi, la capitale national va lancer ses célébrations de la Saint-Jean le 23 juin avec des activités familiales et aussi un spectacle avec plein de bons artistes, Blue Jeans qu'on vient d'entendre, Ariane Moffat, Garou, plusieurs autres. Et le spectacle sera diffusé à partir de 21h30 à Télé-Québec aujourd'hui même. Les activités familiales, dont de la musique, des dégustations et des activités pour les enfants, continueront le 24 juin au Grand Marché de Québec. À Montréal, c'est demain que ça se passe, surtout le 24 juin. La Fête nationale du Québec propose son traditionnel défilé de la Saint-Jean. La marche commencera à 14h au coin des rues Rachel et Molson pour se rendre jusqu'à l'angle de Rachel et d'Orléans. La fête va se poursuivre au Parc Maisonneuve dès 20h avec le grand spectacle animé par Guylaine Tremblay, regroupant plein d'artistes, dont Sarah Dufour, qui est pas mal occupée de ce temps-ci, Lorde, Yann Perrault, Yama Laurent, Matt Lang, Bon Enfant, oui, c'est confirmé, participera donc à ce grand spectacle de la fête nationale. Antoine Bertrand aussi. Et le dernier, mais non le moindre, c'est pas le dernier parce qu'il y en a d'autres, là, je les ai pas tous nommés, mais Robert Charlebois, il sera là. Il faut bien vous hydrater, Robert Charlebois, qui aura 81 ans le 25 juin, ça n'a pas de bon sens. Toujours en forme, toujours alerte et toujours un de nos plus grands artistes qui sera donc au grand spectacle de la fête nationale présenté au Parc Maisonneuve à Montréal. Et le spectacle sera diffusé à la télévision à 20h30 sur ICI TV. Télé et TVA. Alors là-dessus, je vous dis merci beaucoup d'avoir été là. On va se laisser avec Robert Charlebois, qui lui va être à Montréal, mais il a le goût quand même d'aller à Québec. Et on se retrouve, nous, après-demain. Bonne Saint-Jean!
Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour Québec. Si j'avais des lumières sur mon bail, je partirais pour
Québec.
Si j'avais plus de gasoline, je monterais toutes les belles collines. Quand la noirceur sera venue, j'allumerai les lumières pour ma vue. Et je roulerai dans la nuit en chantant ces jolies mélodies. J'ai passé de belles nuits
Québec,
en te caressant avec des beaux becs. J'ai passé une belle nuit à Ottawa, en te caressant, en te tenant dans mes bois. J'ai passé une belle nuit à Toronto, mais si je me rappelle bien, ça fermait un petit peu trop tôt. Attention, Toronto. Je suis un Hells Angels à pied. Je roule à pied sur du papier. Je mange des hot dogs mais je bois du thé. Je suis un Satan's Choice raté. Pour faire comme les vrais robineux, je m'achète des beaux vieux habineux. Je suis un bon de bonne famille. Quand je vois sa main, je mange des guettés. Et quand je fonce vers la lune, c'est bien assis en Volkswagen avec ma brune. J'aurais trop peur sur un chopper. Avec Aline, pourvu que ça pine. Avec Thérèse, fraise contre fraise. Je partirais pour
Québec.
Si j'avais des lumières sur mon bail, je partirais pour
Québec.
Si j'avais plus de gasoline, je monterais toutes les belles collines. Quand la noirceur sera venue, j'allumerai les lumières pour ma vue. Et je roulerai dans la nuit. So when the twilight falls on the heights, I will light my lights for my side. Et je roulerai jolie mélodie. J'ai passé de belles nuits à Québec.
J'avais les ailes d'un ange, partirais-vous
Québec.